Vous vous souvenez forcément de l'affaire des assistants parlementaires qui a coûté cher à François Fillon pendant la campagne présidentielle. Eh bien, l'argent des parlementaires est à nouveau questionné aujourd'hui. C'est une enquête publiée ce midi par la rédaction de notre site internet franceinfo.fr. Il s'agit cette fois de l'utilisation des permanences parlementaires, c'est-à-dire un local, un bureau, un appartement que certains députés ont acheté grâce à leurs frais de mandat, de l'argent public donc. Sauf qu'une fois battus aux législatives, eh bien, certains auraient revendu ces permanence en faisant des bénéfices. Là, ça pose un vrai problème. C'est ce que vous avez constaté en réalisant cette enquête, Yann Thompson et Thomas Baietto du site franceinfo.fr. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Merci.
On est avec Trice Acatriné. Bonjour à vous.
Bonjour.
Fondatrice du projet Arcadie qui répertorie et qui publie les informations, toutes les informations qui sont à votre connaissance sur nos députés et donc notamment les données financières, c'est ça?
En partie, oui, les données financières, ainsi que celles des sénateurs et des eurodéputés français.
Et en ligne avec nous, Michel Liebgott. Bonjour.
Bonjour.
Ancien député socialiste de la Moselle. On peut commencer avec vous pour expliquer votre cas précisément. Alors, vous aviez une permanence, c'est ça? Est-ce que vous l'avez revendue ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous?
Non, alors moi, j'avais pas de permanence. J'avais un appartement que j'ai acheté avec des assurances vie personnelle.
Oui.
Il y a un certain nombre d'années, en l'occurrence, c'était des assurances vie, Société Générale et Groupe Malakoff. Donc c'était mon appartement et pendant plusieurs années, je l'ai mis à disposition gratuitement du député que j'étais.
D'accord.
J'ai perdu des loyers au fil des ans puisque j'aurais pu louer à un particulier. Et en 2015, lorsque la réforme du bureau de l'Assemblée nationale portant sur les RSM a vu le jour, j'ai été rencontrer le déontologue dont le poste a été créé à l'époque. Et le déontologue m'a effectivement indiqué qu'il était tout à fait logique que je perçoive un loyer. Donc j'ai à ce moment-là consulté, comme cela a été demandé, des notaires qui ont indiqué qu'elle était prise grosso modo du marché là où je suis député. Et à partir de là, effectivement, je me suis versé un loyer que je ne percevais pas auparavant. Donc j'ai en fait, moi, dans ce cas précis, perdu 4-5 années de loyer qui m'auraient été versés par un particulier si j'avais loué mon appartement à un particulier.
D'accord. Yann Thompson et Thomas Baietto, un exemple concret de l'affaire dont nous parlons, c'est celui de Jean-Jacques Urvoas. Une plainte est déposée ce midi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son cas?
Alors Jean-Jacques Urvoas, donc, qui était député du Finistère, a acheté en 2008 à Quimper une permanence parlementaire en bénéficiant d'un prêt qui avait été fourni par l'Assemblée nationale. Et après, toutes les mensualités de cet emprunt ont été remboursées grâce aux frais de mandat du député Urvoas.
Oui.
Et c'est ce qui incite aujourd'hui l'association anticorruption finistérienne Cicero 29 à poursuivre, à attaquer Jean-Jacques Urvoas sur ce point-là.
Donc en détournement de biens publics, c'est ça?
Détournement de biens publics. Ils accusent Jean-Jacques Urvoas d'avoir profité d'un enrichissement personnel. Et d'ailleurs, Jean-Jacques Urvoas aujourd'hui cherche à revendre ou à relouer sa permanence. Et c'est ce qui sert de point d'appui à cette plainte déposée aujourd'hui par cette association.
Michel Liebgott, est-ce que vous pensez que ce type de comportement est plutôt répandu parmi les anciens députés? Est-ce que c'est quelque chose qui se faisait beaucoup?
Je ne sais pas si c'était répandu. Moi, je pense que le système était de toute façon très mauvais. Il faudrait qu'à la limite qu'il y ait une permanence dans chaque circonscription et que cette permanence soit dévolue aux députés nouvellement élus, quel qu'il soit. Donc l'État a une permanence, il le met à la disposition du député qui vient d'être élu, qui est au cœur de la circonscription, ce serait beaucoup plus simple. Ça éviterait effectivement que des gens élus avec l'IRSM achetaient une permanence, ce qui n'est pas illégitime de mon point de vue. Jean-Jacques Urvoas a acheté une permanence parce qu'il avait besoin d'une permanence. Dans mon cas précis, je pourrais me retourner contre l'Assemblée nationale parce que j'ai perdu effectivement des années de loyer en mettant gratuitement à disposition un appartement qui m'appartenait. Mais dans les deux cas, ce n'est pas une situation normale. La situation normale, c'est que l'État achète des permanences dans les circonscriptions et les met à disposition des députés, comme d'ailleurs quand vous êtes maire, vous entrez dans un hôtel de ville qui ne vous appartient pas.
Bien sûr. En tout cas, ce que l'on constate là, c'est qu'il y a un véritable problème de transparence, Trice Acatriné. Ça, c'est votre sujet.
Ça, c'est déjà oui, effectivement.
Avec le projet Arcadie.
Il y a un problème de transparence parce qu'en fait déjà on ne sait pas qui est propriétaire des permanences toujours à l'heure actuelle. En fait on ne sait pas qui gère les permanences parlementaires des députés et des sénateurs. Ça, c'est peut-être une donnée sur laquelle il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de communication. On ne connaît pas le montant des loyers et surtout, ce qu'on ne connaît pas, c'est quand les parlementaires font permanence permanente au sein des mairies, quelles sont les conventions d'occupation avec les mairies et quel loyer est payé. Mmh. Et sous la 14e législature, bon, maintenant, évidemment, c'est plus tellement le cas, quand les députés étaient également maires, ils avaient pris l'habitude de loger leur permanence parlementaire à la mairie. Mais la question, c'est est-ce qu'ils payaient un loyer à la mairie et à combien était ce loyer ou est-ce que l'IRFM a été utilisé à d'autres fins? Donc ça, c'est des données sur lesquelles on n'a pas de visibilité.
Oui.
Je vais me permettre de rebondir sur la question d'acheter des permanences parlementaires. Parce que ça, effectivement, ça, c'est un point qui est souvent abordé et qui est souvent proposé, dire voilà, l'Assemblée nationale peut gérer le patrimoine. Alors, je ne vois pas du tout comment on va pouvoir faire, par exemple, pour les Français établis hors de France. Je ne vois pas du tout comment on va gérer la question pour les territoires d'outre-mer. Et surtout, comment on va faire en cas de redécoupage de la carte électorale. Parce qu'à la base, une ville, ça ne va pas bouger. Donc effectivement, faire le parallèle avec une mairie, ça peut être pertinent. Sauf que là, on va avoir une réforme constitutionnelle où vraisemblablement, on va réduire le nombre de députés. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ces permanences-là? La carte, elle bouge. Elle bouge en fonction du nombre d'habitants qu'il peut y avoir dans une circonscription. Moi, j'ai très très peur que ce soit un gaspillage public. Et puis, si je peux me permettre, le député est le représentant de la nation. Rien ne l'oblige en réalité à avoir une permanence fixe. Il peut faire des permanences mouvantes comme le font certains députés actuellement.
D'accord. Yann Thompson, un mot là-dessus, puis Michel Libgott, vous allez réagir.
Oui, juste pour préciser que la semaine prochaine, l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée justement, va étudier les nouvelles conditions de frais de mandat qui vont être mises en place à partir de janvier à l'Assemblée. Ouais, ouais. Et durant notre enquête, Florian Bachelier, qui est premier questeur de l'Assemblée, nous a clairement dit qu'il exclut un achat de la part de l'Assemblée nationale de permanence dans les circonscriptions. Donc ce qui est proposé là et qui était à l'époque aussi défendu par Jean-Jacques Urvoas paraît exclu pour l'heure.
Michel Libgott, on voit qu'il y a des failles dans cette proposition.
Bien sûr. Je prétends pas avoir raison. Je pense néanmoins que ça coûterait beaucoup moins cher à l'Assemblée nationale. Vous imaginez la somme de toutes les locations que l'Assemblée nationale doit payer au fil du temps à des députés sans jamais être propriétaire de rien. Je réponds à madame. Une fois que la permanence n'est plus utilisée parce qu'on a changé effectivement le découpage électoral, bah, il suffit de revendre. Une circonscription peut avoir une permanence qui est un appartement qui est revendu et l'Assemblée nationale récupérera son argent. Mais là, vous allez faire payer l'Assemblée nationale ad vitam aeternam des loyers extrêmement élevés, notamment dans des secteurs à tension. Les loyers sont très élevés et je pense que si on veut faire des économies, il faut gérer au mieux l'argent public.
Thomas Baglietto, au cours de cette enquête, est-ce que les députés vous ont parlé facilement ?
Alors, c'est très simple, on va donner quelques chiffres. Nous, on s'est intéressé à 250 députés qui ont quitté l'Assemblée au printemps et qui avaient fait au moins 2 mandats. Sur ces 250, on les a tous contactés individuellement. On n'a eu que 152 retours. Il y en a une centaine qui ne sont pas revenus vers nous. Et pour répondre tout à l'heure à votre question sur est-ce que c'est répandu comme pratique, parce que par exemple, vous aviez sur les 150 qui nous ont répondu, 71 propriétaires, et sur ces 71 propriétaires, 32 ont reconnu avoir acheté et financé cet achat avec l'IRFM, et 19 ont refusé de nous répondre quand on leur a posé clairement la question. Voilà.
Et parmi ceux qui vous parlent, certains se rendent compte au moment où ils le font que ça ne va peut-être pas les servir, hein. Ils
oui,
vous disent, je ne devrais peut-être pas vous parler, j'aurais peut-être pas dû.
Effectivement, j'ai passé de longues minutes au téléphone avec un député qui, visiblement, n'aurait pas dû me dire qu'il avait acheté avec l'IRFM. En tout cas, il le regrettait beaucoup. Et pendant de longues minutes, il a demandé à ce que je ne cite pas son nom, à ce qu'il n'apparaisse pas. Évidemment, vous retrouverez son nom dans le tableau qui compile tous les résultats de notre enquête sur franceinfo.fr.
Thomas Baglietto, Yann Thompson, Trissa Catriné et Michel Libgott, vous restez avec nous, on reprend cette discussion.
France Info.
L'argent des parlementaires, à nouveau questionné par une enquête de notre site internet franceinfo.fr à propos des permanences parlementaires, parfois achetées avec de l'argent public et revendues avec des bénéfices à la clé pour les députés. Cette enquête, elle est signée de nos deux invités, Yann Thompson et Thomas Baglietto. On est également avec Trissa Catriné du projet Arcadie et Michel Libgott, ancien député de Moselle, est en ligne avec nous. La question centrale, finalement, c'est de savoir si les députés qui ont fait ça ont enfreint la loi ou pas. Est-ce que l'usage de cet argent est encadré, Yann Thompson ?
Bah, c'est la question qui se pose avec cette plainte. On va découvrir pour la première fois, la justice va être saisie de cette question-là.
Donc la plainte contre Jean-Jacques Urvoas.
Contre Jean-Jacques Urvoas, voilà.
C'est la seule pour l'instant, c'est la seule plainte.
À notre connaissance, oui, en tout
D'accord.
cas. La question après, c'est de savoir, en fait, à partir de 2015, cette pratique est devenue clairement interdite par le bureau de l'Assemblée nationale. Jusqu'alors, il était complètement possible de faire à peu près ce qu'on voulait avec cette enveloppe des frais de mandat parlementaire. Et l'Assemblée nationale, d'après les dires de certains élus que nous avons eus au cours de notre enquête, incitaient même, voire encourageaient les députés à acheter leur permanence parlementaire. Donc c'était un système qui était très répandu. Et d'ailleurs, Jean-Jacques Urvoas, tout à l'heure, il y a quelques minutes, nous a répondu avant la publication de notre enquête en nous affirmant que l'acquisition de sa permanence répondait scrupuleusement à la loi et aux normes alors édictées par l'Assemblée nationale. Oui. C'est une réponse qu'on a eue de la part de beaucoup de députés. C'était dans les règles.
Trice à Catherine. C'est légal. C'est même encouragé, on vient de l'entendre.
Mais c'est ça, en fait, à chaque fois, c'est toujours la même réponse. C'est « Ah, mais c'est légal !» Oui, mais ce n'est pas parce que c'est légal que c'est forcément moral. C'est ça, on a eu la même question, finalement, avec l'affaire
Donc
Fillon.
Donc on est à nouveau sur le plan de la morale, c'est, la morale de nos élus.
La morale de nos élus, et c'est surtout que là, il y a eu... Enfin, quand vous êtes député, vous bénéficiez de certains avantages en termes de prêts, quand vous voulez... En termes de taux, pardon, sur quand vous voulez contracter un prêt, c'est-à-dire qu'il y a... Ça, ce n'est pas comme le commun des mortels quand vous allez à la banque pour souscrire un prêt immobilier. Et le souci, c'est qu'effectivement, le président Bartolone avait mis fin à un certain nombre de pratiques. Il va y en avoir d'autres qui vont surgir. Et le problème, c'est qu'on n'édicte des règles qu'après coup. On est incapable, apparemment, d'anticiper les scandales à venir. Mmh. Parce que, enfin, moi, je suis persuadée, il y a matière, même maintenant, avec la suppression de l'IRFM, remplacement par des frais de mandat, enfin, contrôlés, etc. Il y aura matière encore à détourner de l'argent.
D'accord.
Et de manière très simple. Donc avec des schémas qui sont très basiques. Mais ça, encore une fois, avec la loi confiance, avec pour l'instant ce qui est fait en termes de législation, c'est trop superficiel.
Michel Liebgott, la morale, c'est une dimension qui vous semble importante dans la fonction de député ?
À la fois la morale, mais également la légalité. Je vous rappelle que le député fait la loi quand même.
Oui, donc, alors là on part du principe que c'est légal. Hein. On est sur l'argument de tout est légal.
Dans l'ordre des priorités, je ne dis pas que tout est légal. Dans l'ordre des priorités, je crois que d'abord, il faut respecter la légalité. Les juges doivent effectivement sanctionner ceux qui ne respectent pas la légalité. Ensuite, se pose le problème de la morale. Et de ce point de vue, moi, je pense que la loi de moralisation qui vient d'être votée ne va pas assez loin. C'est une loi, de mon point de vue, d'ailleurs, extrêmement minimaliste. Si vous regardez ce qui se passe sur l'ensemble du territoire, combien d'élus locaux ont effectivement des véhicules de fonction ou de service ? Moi, j'ai aujourd'hui, effectivement, un véhicule de service que j'utilise de temps à autre. Mais j'ai aussi une voiture personnelle. Alors, mettez-vous à la place d'un député qui, à l'époque, avait une voiture IRFM, une voiture personnelle et une voiture de service. Par exemple, le gouvernement actuel n'a en rien légiféré sur ces questions. Donc, la montagne a couché d'une souris. Il est grand temps, effectivement, qu'on se penche vraiment sur cette question, mais dans le respect également de la fonction des élus. Parce qu'aujourd'hui, les élus sont montrés du doigt. Or, beaucoup d'élus, la grande majorité que je côtoie, notamment au niveau local, 99% sont des gens honnêtes qui souvent perdent de l'argent dans les petites communes. Et je crois qu'on aurait tort simplement de les stigmatiser parce qu'on ne va pas assez loin dans l'examen des situations complexes, parce que ce sont des situations complexes. L'exemple de la voiture que je viens de donner est une situation complexe.
Thomas Baglietto.
Alors, il est important aussi de souligner que dans le cadre de cette enquête, on est tombé sur de nombreux députés qui nous ont expliqué ne pas avoir fait ça et condamné cette pratique. Je vais en citer qu'un, par exemple Christophe Léonard dans les Ardennes. Lui, il y voit une appropriation privée de moyens publics qui est plus que condamnable. C'est quelque chose qui est revenu aussi régulièrement, donc il ne faut pas tomber dans le tous pourri.
Bien sûr. Trissa Catherine, vous dites quand même qu'on va sans doute découvrir encore des utilisations surprenantes, voire choquantes, de l'argent public de nos élus, de l'Assemblée nationale.
Totalement. Je vais donner un seul exemple. On a un certain nombre de députés, en tout cas sous la 14e législature, mais c'est évident que sous la 15e, on va avoir le problème qui va se représenter, surtout que les députés en question sont toujours là, qui ont hébergé au même endroit leur permanence parlementaire et leur micro-parti. Il y en a un qui était tombé dans le piège, si je puis m'exprimer ainsi, à savoir Pierre Lellouche. Il avait mis son micro-parti Participation et Liberté à sa permanence parlementaire. Et du coup, la Commission nationale des comptes de campagne et du financement de la vie politique lui avait dit « Bon, vous avez utilisé l'IRFM pour financer votre parti politique. Vous n'auriez pas dû, donc on vous demande de rembourser. » C'est écrit noir sur blanc dans le rapport de la Commission. Je pense qu'il y a un certain nombre de députés qui ne savent pas qu'on ne peut pas mettre au même endroit un micro-parti et une permanence parlementaire. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ça, c'est, on va dire, ce rapprochement, on va dire, entre les adresses des partis politiques, les fédérations, les micro-partis et les permanences parlementaires, députés et sénateurs, hein, bien entendu. Ça, c'est un rapprochement au niveau des adresses qui n'a pas encore été complètement fait. Alors, d'accord. Moi, je l'ai fait sous la 14e. J'ai toujours le fichier qui est en attente. J'attends un tout petit peu avant de refaire cet exercice que tous les députés aient une permanence parlementaire.
D'accord. Juste pour préciser les choses, elles sont censées servir à quoi, normalement, ces indemnités de frais de mandat, Ian Thompson ?
Alors, ces indemnités donc, sont vraiment distinctes de l'indemnité parlementaire que reçoit le député en guise de salaire. Donc ça, c'est une enveloppe qui est complètement à part. Donc les indemnités représentatives de frais de mandat, cette IRFM, servent du coup à l'allocation de bureaux, aux frais de déplacement aussi du député qui va faire des allers-retours vers Paris ou faire des trajets dans sa circonscription. Ou lors de cérémonies, il va offrir une coupe pour féliciter une équipe sportive de la circonscription, ça va être remboursé avec les frais de mandat.
D'accord. Thomas Baglietto.
Et ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de liste claire disant l'IRFM sert à ça, ça et ça.
Alors, normalement, donc c'est à la discrétion des élus.
C'est à la discrétion des élus. Oui. Normalement, la semaine prochaine, avec les nouvelles règles, on devrait avoir plus d'éléments là-dessus.
Chris et Catherine.
Si je peux me permettre de nuancer. En fait, s'il y a des dépenses qui sont autorisées, c'est-à-dire ce qui rentre dans le fonctionnement du mandat, par exemple, des forfaits téléphoniques pour les collaborateurs parlementaires, ça rentre dans le cadre des frais de mandat. Par contre, il y a effectivement des questions qui sont posées, notamment sur les gardes d'enfants, parce que ça, c'est une question qui revient de façon très récurrente. Il y a des dépenses qui sont totalement interdites. Tout ce qui sert à financer un parti, interdiction d'utiliser l'IRFM pour ça. Donc, on a quand même un cadre, mine de rien.
Merci. Merci à tous les quatre, Ian Thompson et Thomas Baglietto, pour cette enquête publiée sur notre site franceinfo.fr, Trissa Catrinet du projet Arcadie. Et merci à vous, Michel Libgott, ancien député de Moselle, en ligne avec nous pour le 12-14 de France Info.